s'est lancé dans cette nouvelle aventure de bière. Et j'avoue que j'ai failli, si on n'avait pas acheté une maison dans le Cher, je crois que je serais parti avec mes valises, ma femme et mes enfants, alors je ne sais pas dans quel ordre, en Australie, parce que la France me gonflait sérieusement. Donc on a quitté une entreprise avec une belle entreprise où on gagnait de l'argent, mais avec un souci, je dirais, administratif et de gestion d'entreprise et de relations avec le personnel qui devenait de plus en plus difficile. On est parti au moment des 35 heures qui arrivait. Donc en restauration, c'est toujours la crise et toujours le problème. C'est pour ça qu'à l'époque, j'étais prêt à traverser, à faire le tour du monde pour aller ailleurs et voir autre chose. Et puis en fin de compte, je me suis retrouvé avec une entreprise à relancer, à faire renaître un bébé. L'entreprise d'avant avec mon père, je dirais que j'ai commencé dans les années 70 avec mon père en sortant de l'armée parce qu'il était un petit peu dans les difficultés, donc c'était pas mon métier d'origine, j'ai pas choisi ce métier-là. Et puis je suis parti avec lui, je suis parti dans un métier où j'avais, je dirais pas un bon professeur, j'avais un bon professeur et où j'ai regretté de ne pas avoir travaillé dans d'autres maisons. On a commencé avec un petit restaurant de campagne, mon père avait travaillé dans une grande maison parisienne, avait connu... je ne sais pas si tout le monde connaît encore ce monsieur Escoffier, donc il avait appris avec un apprenti d'Escoffier. Donc je suis resté, ça m'a appris à travailler avec des recettes anciennes, ce qui fait qu'on le retrouve dans ma bière. Je n'ai pas changé de politique là-dedans non plus. Et quand je suis sorti de l'armée, je suis reparti dans ce restaurant de campagne avec mon père et on a fini par monter une belle table. Bon, c'était pas la tour d'argent, je ne peux pas rêver non plus. Mais bon, on a eu une belle aventure et on a... je dirais qu'on a fait un beau bout de chemin là. Et on avait créé une entreprise déjà, donc je suis reparti, j'ai recommencé. Je pense que quand on est drogué, chuter l'entreprise, on continue. Et on est reparti pour un tour. Donc on est venu à la bière, je dirais, un petit peu par ce goût, par cette maison qu'on avait à la campagne, pour essayer de retrouver un cadre de vie intéressant. Donc on avait acheté une maison de maître, en quelque sorte, où il y avait quelques bâtiments un peu effondrés qu'on a commencé à retaper avec ma femme et dans laquelle on avait prévu d'installer la brasserie. Et puis quand on a commencé à... J'ai commencé à étudier un petit peu la fabrication de la bière parce que je me suis lancé là-dedans, je dirais, un peu à corps perdu. J'y connaissais que dalle, c'est le mot exact, parce que j'ai vendu de la bière pendant des années et je ne savais pas comment c'était fait. Je savais m'en occuper, je savais, je pense, la servir et nettoyer mon tirage, qui est un problème un peu réel dans la fabrication de la bière. Mais je me suis lancé là-dedans sans aucune idée. Et la preuve en est, c'est que quand je me suis lancé à essayer de comprendre le vin et à vouloir me lancer dedans, bah, ça m'a fait peur. Et quand maintenant, avec le recul, je compare la fabrication de la bière avec le vin, je pense que c'est différent, c'est proche en même temps et c'est aussi complexe que le vin. Par des problèmes ou autres qu'on ne rencontre pas dans le milieu viticole. Donc de cette envie de monter ça chez nous, on a commencé à regarder les bâtiments, à tracer des plans, à faire des projets et puis à regarder économiquement un petit peu dans quoi on s'engageait. Et on s'est retrouvé, bon, ce qui a fait qu'on est allé un petit peu, on n'a pas monté ça chez nous, c'est que déjà où on était, la qualité de l'eau, qui est un élément essentiel dans la fabrication de la bière, ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais. Alors, je dirais pas qu'à Sancerre maintenant c'est parfait bon aussi, mais bon, c'était quand même mieux. Et puis la recherche de locaux et le hasard a fait qu'on a fini cette recherche à Sancerre, où on a trouvé une eau d'une certaine qualité d'eau intéressante pour certains types de bières. On a trouvé un bâtiment, donc on a acheté les anciens abattoirs de la ville qui étaient juste avant, à cette époque-là. Il est déjà en vacances, mon ordinateur. Oui, apparemment. Donc je dirais que c'est un petit peu beaucoup de hasard qui m'a fait me lancer dans cette nouvelle aventure. Pour vous dire que je connaissais rien à la bière au départ, c'est que bon, après avoir cherché ce que je pouvais faire, bon, j'avais 48 ans à l'époque, changer de métier, changer de vie, c'est quand même pas très simple. Donc j'ai décidé, c'est ce qui m'a un petit peu marqué, je dirais, comme date, c'est qu'un beau soir, j'étais dans le fond de mon canapé devant la cheminée, et c'était un 15 décembre 99, et je me suis dit, bon, bah, je monte une microbrasserie. Donc là, j'ai vraiment commencé à étudier ce qu'était la bière, comment c'était fait. J'étais parti de mon restaurant avec pas mal de gamelles sous le bras, donc elles m'ont permis de pouvoir commencer à fabriquer de la bière. on fait bouillir, on fait des choses comme ça, donc il y a quand même, ça ressemble un peu au métier de cuisinier. Bon, après, il y a d'autres choses qui viennent se greffer dessus, mais on a quand même certaines similitudes, je dirais. Alors, je voulais vous montrer. J'aurais dû m'occuper de lui un petit peu avant, je ne m'aurais pas laissé en rideau. Donc ça, bah, c'est le saint patron des brasseurs, donc j'ai mis en tête pour vous présenter. Donc, quand j'ai décidé de me lancer dans la bière, tiens, j'ai plus de micro. Donc je vais continuer de parler dans le micro parce que je vous le dis, ça enregistre en même temps. Donc pour enregistrer, je suis obligé de parler dedans, mais j'espère que je parlerai assez. Ah, c'est bon, ça vient. Une chambre d'écho. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser à la fabrication, je me suis penché dans les bouquins et j'ai commencé à brasser chez moi en tant que brasseur amateur et en même temps à monter mon plan de création d'entreprise parce que chercher des locaux, chercher de l'eau, les fournisseurs, tout un tas de choses, ça nous a mis, je dirais, 5 à 6 mois à faire le tour pour monter le projet et pour commencer à voir un petit peu ce dont on avait besoin, emplacement, bâtiment. Donc on est allé à la recherche de l'eau et d'un bâtiment pour, dans lequel s'installer. Et on est tombé par hasard, je dirais, à Sancerre, où j'étais en train de me promener. Et une fois que j'avais trouvé l'analyse d'eau, j'ai un monsieur à qui je demandais si un vieux hangar était pour à vendre. Il m'a dit non, mais la ville vend ses anciens abattoirs. Donc ça, ce sont les anciens abattoirs de la ville de Sancerre, qui ont été construits en 1930 et qui ont été arrêtés, je crois que c'est en 1992. Donc ils ont arrêté de s'en servir. Et donc à l'intérieur, là c'est, je dirais, la grande pièce principale, c'était la pièce d'abattage à l'époque, donc où on avait des treuils sur les côtés avec des plans comme ça qui permettaient d'accrocher les bêtes quand elles étaient tuées, et on avait tout en haut tout un réseau de poutrelles métalliques qui servaient à faire rouler les quartiers de les pièces de viande quand ils étaient abattus. Donc j'ai trouvé que, je suis pas amateur de béton armé, mais je dirais que ce bâtiment, avec son allure arrondie, cette grande pièce avec en haut, là on ne la voit pas, mais on a une verrière, donc on a un puits de lumière juste au-dessus, une exposition nord et sud, un emplacement sur un coteau nord qui fait qu'on a une espèce de régulation thermique où il ne fait pas trop chaud. À l'époque, ça avait été bien pensé. Et c'est vrai que quand on regarde des grandes salles de brassage, des vieilles brasseries, on a souvent des plafonds qui sont très hauts, et c'est vrai que je constate que dans la fabrication, on fait bouillir, moi je fabrique la bière à chaque fois par 1000 litres, et quand on fait bouillir 1000 litres pendant 1h30, 2h, ça dégage de la chaleur, même le matin on travaille avec de la température aussi, et travailler dans des grands volumes d'air comme ça, ça rend le travail agréable, de par le volume et de par cette luminosité qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'étais installé dans ce bâtiment. Je suis allé à la mairie de Sancerre suite à avoir trouvé ce bâtiment. Des gens de Sancerre, des artisans, m'avaient dit « Écoute, si tu montes ce projet là-bas, tu fais pas trop de bruit parce que bon, aller mettre une brasserie dans le milieu du vignoble, ça va peut-être pas être bien perçu, tu risques d'avoir des ennuis. » Donc je ne suis pas quelqu'un de trop démonstratif, donc je voulais faire mon entrée par la petite porte et en discrétion, toute discrétion. Le bâtiment était la propriété de la ville. Je suis allé voir le maire le mardi matin. Le mercredi soir, il y avait un conseil municipal. Et au conseil municipal, il en a débattu pour savoir si on pouvait vendre le bâtiment à un brasseur. Le maire était intéressé par le projet pour monter autre chose. C'est vrai qu'il y a pas mal de vignerons. Il voulait monter autre chose. Lui, ça l'intéressait aussi. Donc, il en a parlé au conseil municipal. Les journalistes étaient là. Et donc, le jeudi matin, puisque la voix du Sancerrois, j'ai rien contre les journalistes, mais ça m'a mis la chose en route rapidement. Donc, le journal local de Sancerre, c'est la voix du Sancerrois. Moi qui venais de région parisienne, où quand on voulait faire parler aux gens, ça passait par des bulletins communaux, par des choses comme ça. À Sancerre, tout passe par la voix du Sancerrois. Tout le monde dit la voix du Sancerrois, même en Amérique. Donc, c'est quelque chose qui s'exporte très bien. Donc, le lendemain matin, jeudi matin, j'avais la première page du journal où il y avait marqué 1 contre 400. La bière va couler à flot du piton. Enfin, c'était 1 contre 400. C'est ce qui m'a choqué à l'époque. Je me suis dit, mais dans quoi t'as mis les pieds, mon bonhomme, là? Bon, ça a été décidé. Le maire a poussé à la roue, nous a fait une proposition intéressante pour l'achat du bâtiment, parce que quand on commence à mettre les sous les uns au bout des autres, bah, ça grimpe très vite, quoi. Et donc il a accepté, le conseil aussi a accepté de nous vendre le bâtiment. Je dirais que là aussi ça a été une belle aventure, parce que ce bâtiment est placé sur la face nord, sur une face nord en dessous de Sancerre, que derrière on avait un grand plateau qui faisait 1000 m² à peu près, qui était l'ancienne décharge de Sancerre, donc j'ai acheté la décharge de Sancerre en même temps. Donc je repose, enfin pas le bâtiment est bâti sur de la roche, là je suis tranquille, mais j'ai voulu avoir un peu de terrain avec. Et donc il a fallu une enquête administrative qui a duré un an et demi, ce qui fait que j'avais quasiment installé ma brasserie, elle était à l'intérieur, et je n'avais toujours aucun papier. Donc je n'étais pas propriétaire des lieux, et à la fin je commençais à m'inquiéter, parce que théoriquement un propriétaire, quand il n'y a pas de bail de fait, est propriétaire de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, quand on est arrivé à la fin, enfin à cette période-là, j'avais quand même installé à peu près 300 000 euros de matériel. Donc j'avais mis tout ça dedans et je m'étais dit, si jamais j'ai un problème avec le maire, je suis mal parti là. Mais bon, j'ai pas eu de problème. Mais avec ce démarrage en disant 1 contre 400, je savais pas trop où j'allais quoi, à l'époque. Donc on a mis à peu près un an et demi pour, je dirais, pour avoir ce bâtiment. J'ai mis un an et demi pour construire ma brasserie, parce qu'avoir un bâtiment comme ça, on l'a trouvé dans l'état où vous avez vu les photos précédentes. Là, donc... Tout était à l'avenant, avec une bouverie, une bergerie, avec une partie frigo sur le côté, toute cette installation, et puis un bâtiment qui était resté comme il était en 1930, il était dans son jus, je dirais, du sol en béton comme on le travaillait en 1930, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de ciment à l'intérieur que le ciment était bleu, donc il a fallu qu'on travaille là-dedans. Et je dirais qu'on a mis un an et demi à tout installer avec ma femme. Donc on s'est lancé tous les deux là-dedans. Et on a tout fait à l'intérieur. C'était un choix. Je dirais que j'ai voulu monter mon projet chez moi à la campagne avec une brasserie d'occasion. Très souvent, les petits brasseurs, quand ils démarrent, ils achètent des tanks à lait qu'on commence à dépouiller, à mettre du chauffage dessous, à bricoler. C'est ce que j'avais prévu de faire à la maison. Me retrouvant avec un bâtiment à Sancerre au milieu des vignerons et à côté de Chavignol, donc on est en pleine appellation de fromagerie, de fromage de chèvre. Donc je me suis dit, je ne peux pas permettre de monter quelque chose avec un matériel qui ne tienne pas la route. En plus, je viens du milieu de la restauration où j'ai travaillé dans le cuivre pendant de nombreuses années, donc le cuivre m'a toujours plu. Et j'ai voulu du coup me payer une belle brasserie. Donc du départ, d'un investissement que... Je pensais faire, donc j'étais encore dans mes francs à l'époque, mais je dirais que j'avais prévu de faire un investissement de 80 000 ou 90 000 euros. Je me suis retrouvé, on a fini à près de 350, on en est presque à 400 000 euros à l'heure actuelle, même peut-être plus, j'ai pas refait les comptes. Et je dirais que de se retrouver à Sancerre, ça m'a engagé dans autre chose. J'ai pas voulu que les gens ne se rendent pas compte en rentrant chez moi ce qu'était qui rentrait dans une brasserie. Donc je me suis payé une petite brasserie, mais une brasserie... qui ressemble à une brasserie, je dirais. Donc ça, c'est les plans que j'ai faits au départ pour installer le bâtiment. Donc, la photo que vous voyez tout à l'heure, c'était la salle d'abattage donc, qu'on a transformée en salle de brassage. Donc la photo a été prise de derrière. Donc toute cette pièce était fermée, donc on a ouvert tout un tas de portes. Et ça, c'est le bâtiment principal, le plan du bâtiment principal que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, c'était une partie bergerie, une partie bouverie. On avait une partie frigo ici... un brûloir qui était derrière, et puis une chaufferie et une petite pièce de nettoyage. Donc on a un peu transformé tout ça, et puis donc j'ai installé ma salle de brassage dans le milieu de la grande pièce principale, et donc j'ai installé une brasserie en cuivre. Alors elle est en cuivre extérieurement, parce que maintenant avec les normes, bah, malheureusement, j'aurais pu trouver une brasserie en cuivre, mais je suis vraiment parti de zéro, donc je connaissais rien, et à savoir où trouver du matériel d'occasion et tout ça... Je ne savais pas à l'époque, maintenant je suis un peu plus averti, je dirais que j'en ferais peut-être pas la même chose. Mais j'ai cherché ma brasserie sur Internet, et je l'ai trouvée sur Internet, et les premiers dialogues qu'on a fait étaient par le net. Donc j'ai trouvé, ça a été assez folklorique aussi, cette brasserie a été fabriquée, a été assemblée par un constructeur de brasserie à Vienne, en Autriche. Je parle un anglais déplorable, je ne parle pas l'allemand. Et la personne qui montait ses brasseries était un ingénieur brasseur tchèque qui parle un allemand épouvantable et un anglais épouvantable. Et on s'en est quand même sorti, donc on est arrivé à monter la brasserie. Bon, c'est un homme qui a été qui est ingénieur brasseur, donc qui sait brasser, qui sait construire une brasserie. Donc c'est une petite brasserie qui fait 10 hectolitres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me sers de mes cuves, donc de la salle de brassage, là on est dans la partie salle de brassage, je fabrique, je vous disais tout à l'heure, 1000 litres de mou. Donc c'est une machine, lui était à tracer les plans en quelque sorte, donc il est venu voir le local au départ, et puis il est reparti en Autriche avec les plans, et il m'a fait tous les plans de la brasserie, et il m'a livré une brasserie clé en main, sauf que le montage n'a pas été fait, que je me suis réservé cette partie-là, parce que ajouter les sous, plus les sous, plus les sous, ça va très vite, et j'ai toute la partie plomberie, inox, et puis plomberie, électricité, il en a fait lui une partie, la partie plomberie a été faite par des gens de la région. Mais tout ce qui reste dans l'aménagement du bâtiment, on l'a fait à deux avec ma femme. Le seul entrepreneur que j'ai pris était un électricien qui m'a planté comme un roi, donc il m'a pris les sous, il m'a donné un peu de câble, et puis il n'est jamais venu finir l'installation. Donc je dirais qu'on a quasiment fait toute l'installation autour à la main avec ma femme. Donc c'était un choix. J'ai investi dans une machine très chère, mais il ne m'est pas resté dessous pour faire les travaux. Enfin, j'ai gardé une partie d'argent pour essayer de prévoir un petit peu le pire, parce que quand on démarre une entreprise comme ça, le premier jour où vous ouvrez la porte de votre brasserie, vous n'avez aucune production. Enfin, c'est dans ce que j'ai fait. Beaucoup de petits brasseurs, la plupart du temps, font fabriquer une bière, la commercialisent en faisant le représentant, ni plus ni moins, et puis une fois qu'ils ont atteint un certain volume, ils commandent leur brasserie, ils l'installent, et quand ils démarrent avec leur machine, ils ont déjà une production derrière. Moi, il fallait que je me fasse connaître, et on a démarré de zéro, quoi. Donc le peu d'argent que j'avais gardé, ça m'a permis d'assurer les premières années pour ne pas se planter comme un roi. Donc on a travaillé pendant un an avec ma femme à installer toute la plomberie, l'électricité, tirer les chapes, passer les tuyauteries et tout. Donc on s'est fait 20 tonnes de béton à la main, entre autres. Ma femme s'est spécialisée depuis dans le carrelage, donc ça sert bien à la maison maintenant. Voilà, donc comment un petit peu on s'est lancé dans cette histoire. Et je dirais que c'est assez complexe quand on monte une entreprise comme ça, parce que bon, j'ai choisi une machine quand même relativement... on me l'a livrée clé en main. J'ai choisi un système informatisé. Bon, vous voyez que j'aime bien jouer avec l'ordinateur. Donc je me suis payé une machine avec un automate à l'intérieur, ce qui fait que je l'ai payé un peu plus cher aussi. J'ai acheté une machine en Allemagne pour faire un petit peu des bières dans le style allemand au départ. Donc je vous disais qu'au début, j'ai été un petit peu amoureux d'un type de bière. J'aime bien la bière belge aussi, et je ne vais pas dire que j'en raffole, mais bon, je suis très amateur. Mais comme la plupart des petites brasseries françaises, des brasseurs amateurs travaillent dans le style belge, je n'ai pas voulu travailler comme eux. J'ai voulu travailler au style allemand. Les Allemands ont des recettes très compliquées, ont des fabrications qui sont très longues et qui reviennent très chères, et je dirais comme un idiot, je me suis lancé là-dedans. Donc j'ai attaqué par le plus dur, et pour être sûr de prendre... le moindre risque, j'ai pris les risques financiers, mais quand j'avais mon restaurant, je me suis... j'ai commencé avec mon père, où on avait vraiment un vieux clou, des vieux outils et tout un tas de choses. J'ai commencé avec un fourneau à charbon, où il fallait secouer le charbon 4 fois pendant le service. Et quelquefois, la grille tombait, on se retrouvait avec tout le charbon dans le fond du cendrier. C'est-à-dire qu'à une heure, d'après à une heure, on se retrouvait avec des clients d'un côté, et puis le feu qui ne marche plus. Donc on n'est pas à l'aise. Donc quand j'avais refait mes cuisines, je m'étais fait des belles cuisines avec du beau matériel, en me disant, bonhomme, si tu fais de la mauvaise cuisine, tu ne pourras pas accuser que tu n'as pas de bon matériel, c'est que tu ne sauras pas, c'est que c'est toi qui fais l'erreur. Et là, c'était un petit peu dans le même état d'esprit. Je voulais me payer un outil, je suis sûr de mon outil, et s'il y a des erreurs qui sont faites, c'est de ma faute. Donc je ne vais pas chercher plus loin, je ne peux pas... La fabrication est assez compliquée, et cet ordinateur, je dirais, me permet, donc cet automate, d'assurer un process identique à chaque fois. Alors c'est vrai qu'on est que deux avec ma femme, et on se fait souvent prendre par les clients. Au début, j'étais bavard, je suis toujours bavard, vous savez. Je me laisse souvent prendre avec la clientèle, un peu moins maintenant parce que mon métier m'oblige à avoir un certain retrait et à rester un peu en arrière pour pas que les gens me mangent trop de temps, parce que expliquer comment on fait la bière quand c'est prévu, qu'il y a un horaire, c'est bien. Au début, je le répétais 20 fois par jour, et quand j'avais fini ma journée, j'avais plus de salive et j'avais pas bossé. C'est pas comme ça qu'on peut monter une entreprise, et maintenant les gens ont encore malheureusement du mal à le comprendre. Des fois les gens arrivent à la brasserie, vous pouvez nous expliquer, nous faire une petite visite. Je dis non, je peux pas, parce que si je perds un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure avec un client, quand il va fermer la porte, il y a un autre qui va rentrer, qui va me reposer la même question, je ne pourrai pas fabriquer mon produit. Donc c'est un petit peu le problème qu'on rencontre à l'heure actuelle, et je suis obligé de faire le bougon et de me mettre dans mon coin avec une tête longue comme ça pour pas qu'on m'aborde, dire dis donc c'est un ours, je vais voir ma femme en disant on vous plaint ma petite dame, mais bon c'est un petit peu le jeu qu'on s'est fait, et ça me permet de travailler parce que bon, quand on rentre dans la salle de brassage, la partie... Vous rentrez dans la partie centrale, les bières sont à vendre là, il n'y a pas de fermeture, donc les gens peuvent, ils vont souvent derrière à mon regret, j'ai pas de chaîne, j'ai pas le temps de mettre la chaîne, et je les retrouve dans le milieu de mes pieds derrière, alors qu'il y a des choses en train de bouillir, des vannes qui peuvent être tournées et dangereuses. Mais bon, les gens ne sont pas très polis de ce côté-là, c'est qu'ils rentrent tout droit en face et ils vont dans la partie privée du brasseur. J'ai rencontré certains collègues avec qui j'ai monté d'autres brasseries par la suite, qui pétaient les plombs quand ils voyaient quelqu'un dans leur brasserie, donc apparemment je suis très... Je suis très cool là-dessus, mais on a une journaliste canadienne, je crois, qui est là, une canadienne qui est là. J'ai rencontré un brasseur canadien qui m'a dit qu'une salle de brassage comme ça au Canada, il est interdit de rentrer à l'intérieur à des gens. Ils doivent rentrer, passer dans un pédiluve et avoir des habits un petit peu comme en laiterie ou des choses comme ça. Donc la France est très souple là-dessus. Et la France est souple là-dessus. Ben, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la bière parce que je pense que beaucoup ont déjà vu ce qui s'était. Enfin, il y a un monsieur qui a expliqué ça l'autre jour. Mais je dirais que la bière, on a tout perdu en France. Quand je me suis lancé dans cette aventure de brasserie, pour faire un point en France en 1987, il restait une vingtaine de brasseries. On a perdu tout notre patrimoine. Il est resté que les grosses industries. Quelques petites brasseries familiales. Météor était une des brasseries qui était considérée comme familiale. Fischer, Schützenberger, c'était des petites brasseries. Il faut savoir qu'on est considéré petit brasseur jusqu'à 200 000 hectolitres de bière par an. Moi, j'en fabrique 600 à l'heure actuelle, donc vous voyez un petit peu les écarts qu'il peut y avoir. C'est pour ça que j'ai une microbrasserie et pas une petite brasserie. On est vraiment en bas de l'échelle. Donc en 87, il n'y avait plus beaucoup de brasseries en France. Et des anciens sont un petit peu remis à remettre ça au goût du jour, se sont relancés dedans. Alors quand on se lance, on démarre, ben on commence par des petites quantités, donc ce que j'ai fait. Et quand j'ai décidé de faire de la bière, donc en l'an 2000 quasiment, on était déjà 200 brasseurs, donc une vingtaine de grands et 180 petits. À l'heure actuelle, on est un peu plus de 300, et il en ouvre, il en ferme tous les jours. Donc on avait en France un paysage brassicole important, on trouvait une brasserie dans chaque grande ville. Clamcy, la plus proche ici, était à Clamcy, la brasserie Schneider qui était à Clamcy. Nevers avait une brasserie, donc je suis plus cher, donc on a Bourges, Châteauroux, Issoudun, Avallon. Donc on trouvait, je ne la connais pas celle-là, mais je vais avoir une bouteille. Brasserie. Une brasseuse, la brasserie. C'est la brassière. Donc on avait toutes ces brasseries, il y en avait plus de 3000 en 1910, par là où elles avaient été répertoriées, il y en avait plus de 3500. Donc vous voyez tout ce qu'on avait perdu. Donc là on est remonté à 300, mais je dirais que le paysage a changé parce qu'entre temps il est resté chez nous que des brasseries industrielles qui ont donné une certaine image pas toujours bien belle de la bière. On a du fait de cette disparition de toutes ces petites brasseries, les gens se sont portés beaucoup vers les brasseries belges parce que c'est devenu la référence à l'heure actuelle. Donc je dirais que c'est un petit peu le problème que j'ai rencontré au départ, c'est que maintenant un amateur de bière va vers une bière qui ressemble à une bière belge, mais pas spécialement à une bière qui ressemble à une bière allemande. Donc c'est un petit peu là où je me suis heurté à pas mal de problèmes, mais j'ai constaté que ce que j'ai fabriqué en premier ne correspondait pas tout à fait à l'attente des consommateurs, et ne correspondait pas aussi à leur connaissance de la bière. Donc depuis une dizaine d'années, ça revient, les gens commencent à redécouvrir un produit que l'on refabrique. Mais il y a tout un savoir qui a disparu, un savoir du côté brasserie. Moi, pour apprendre mon métier, je me suis acheté cette machine parce qu'on m'a amené un outil clé en main, donc tout était pensé. On m'a amené des recettes et l'ingénieur qui l'a monté a quand même passé un mois chez moi pour construire le programme informatique parce que c'était une adaptation, et a passé une quinzaine de jours à m'apprendre à brasser. Donc je dirais que j'ai aussi, on m'a appris comme ça. Sinon, du point de vue études, à l'époque, il n'y avait qu'une école à Nancy qui proposait un stage de 2 semaines, donc de 10 jours, pour un stage de microbrasseur, où en 10 jours, on vous apprend à faire de la bière. Donc en 10 jours, j'avais déjà acheté ma brasserie, j'avais déjà commandé, donc j'ai posé beaucoup de questions pour savoir si je ne m'étais pas planté sur mon matériel. Parce que quand vous ne connaissez rien, bah, y avait un prof en face de moi qui disait il faut faire ci, il faut faire ça. Donc je contrôlais en même temps sur ma fiche en face si tout ce qu'il disait était correct dans ma salle de brassage, puisqu'elle était en construction, j'aurais pu apporter des modifications. Mais bon, j'ai appris ça et je suis sorti, je dirais, on n'a même pas assisté à un brassin parce que 10 jours, on peut pas faire le tour de la bière en 10 jours. Ça fait 7 ans que je brasse maintenant. Et je pense que j'en ai encore pour 15 ans à apprendre pas mal de choses, et que mes enfants, si j'ai la chance qu'ils suivent, bah, apprendront aussi, parce que c'est complexe, et je dirais qu'il y a tellement de réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de la fabrication, au cours de la fabrication de la bière et des fermentations, c'est qu'on en apprend tous les jours. Et bon, j'ai appris au fur et à mesure, parce que j'ai changé des recettes, j'en ai créé des nouvelles, et j'ai changé de type de fabrication, donc c'est ce qui fait que ce savoir de brasserie avait disparu. Maintenant, on commence. Moi, je suis installé depuis 7-8 ans. J'ai commencé à avoir des stagiaires. J'ai pas la science infuse, mais je commence à connaître certaines choses. Je peux leur apporter un plus. On commence à avoir des écoles qui s'y intéressent, mais c'est quand même tout récent. Et on a quasiment plus de passé, mais on n'a plus de passé non plus auprès des consommateurs, où les gens. Je viens d'un milieu de restauration. Où j'étais, et je suis toujours amateur de vin, donc malheureusement l'alcool, j'aime un peu ça, donc je suis désolé, mais j'aime les bonnes choses. Et je dirais que de cette période de restaurant où j'ai été une partie en cuisine et une partie en salle, où j'ai fait quand même pendant 15 ans la promotion de mon restaurant, où j'ai appris à monter une carte des vins, à choisir des vins, je dirais que en 20 ans de temps, quand je présentais mes bouteilles en 1980, les gens, ils avaient besoin d'être conseillés parce qu'ils connaissaient quasiment rien en vin. Et quand j'ai vendu mon restaurant, les gens ouvraient les cartes des vins. C'est tout juste qu'ils n'avaient pas le guide d'achat dans la poche ou leur petite plaquette avec les millésimes. Donc les gens ont appris, enfin je l'ai ressenti comme ça, ont réappris le vin. Et je pense que la bière, le travail des petits brasseurs, ça va être aussi pendant 10 ou 15 ans à réhabituer les gens à autre chose que de la bière industrielle. Donc on n'a rien contre eux et on ne peut pas lutter contre parce que les volumes de production sont tellement différents et les systèmes de travail qu'on ne peut pas lutter du point de vue prix non plus. En brasserie industrielle, on compte un ouvrier pour 10 000 hectolitres. Avec ma femme, on en sort 600. Donc vous voyez, on est vraiment mauvais. Ça fait 300 chacun. Donc on est mauvais par rapport à l'industrie. Donc on ne peut pas rivaliser du tout avec eux. Mais ça va permettre de recréer tout un paysage brassicole en France. Et les gens vont pouvoir retrouver mes bières ici ou d'autres bières ailleurs. Et quand ils voyageront, ils iront trouver d'autres bières faites autrement, avec d'autres goûts, d'autres levures. Je vais vous expliquer ça, mais je dirais qu'on a tellement de choix. Il ne faut pas grand-chose pour faire de la bière, mais on a tellement de choix dans les recettes et dans les matières premières et dans la fabrication que l'on peut faire 1000 choses différentes. Et il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. L'eau au départ, je dirais, la machine pour faire la bière, je dirais que vous allez faire la même recette dans deux brasseries différentes, et ben vous n'aurez pas le même produit à la sortie, donc c'est ce qui fait que tout ça, qu'à la fin, on va avoir des bières différentes et que les gens vont reprendre l'habitude d'avoir des produits haut de gamme, c'est prétentieux de dire ça, mais d'avoir des produits artisanaux à proximité de chez eux et leur amener autre chose et des goûts aussi un petit peu différents. Et maintenant, je dirais que les grands brasseurs jettent un œil du côté des petits brasseurs. Quand j'ai commencé, les grands brasseurs avaient un syndicat, Brasseurs de France, qui était un syndicat réservé à la grande brasserie. Je dirais qu'ils nous ont ouvert leurs portes il y a 2 ans. Maintenant, on se retrouve avec c'est assez surprenant pour des tout petits brasseurs comme nous. Vous vous retrouvez à la même table qu'un des grands PDG d'Heineken ou de Kronenbourg, avec qui j'ai discuté, où on parlait de bière. J'ai dit, moi, quand je fais une connerie, le client, il vient me voir, il me dit ça va pas. Puis en face de moi, le monsieur qui était à côté de moi me dit, écoutez, moi, ça fait 20 ans que j'ai pourvu un client. Donc, vous voyez que c'est un petit peu. On est en direct avec les gens, on est à côté, et c'est un petit peu ce qui permet d'avancer aussi, quoi, de tester le produit en direct et rapidement, quoi. Donc voilà un petit peu cette aventure pour se lancer dans la fabrication de la bière. Donc à Sancerre, je dirais que les 1 contre 400 qui m'ont un petit peu surpris au départ ont fait que quand on a fait l'ouverture, la moitié du vignoble était chez nous pour voir ce qu'on fabriquait. Et on a constaté aussi qu'on a discuté métier, fermentation, fabrication, et que je pense qu'on a certaines similitudes. Et on s'est fait accepter facilement et qu'on n'a pas eu. J'ai pas à me plaindre de l'accueil que nous a réservé le Sancerrois. étant parisien et ayant monté, enfin pas, je dis parisien, j'étais, pour moi j'étais pas parisien, j'étais à 35 km de Paris, et dans mon petit restaurant de campagne, quand on voyait arriver les clients, on disait tiens là les parisiens, bon donc, mais moi je me suis retrouvé parisien à mon tour dans le Sancerrois, et puis bah, je me suis pas fait torpiller par les vignerons qui sont nos clients et on fait partie du paysage de Sancerre maintenant, ça fait un produit de plus. Comme on me l'a dit gentiment, et c'est vrai que l'accueil qu'ils nous réservent maintenant est quand même important pour moi et ma femme, pour qu'on se sentir bien dans un pays, c'est quand même pas négligeable non plus. Donc voilà un petit peu cette histoire. On a ouvert donc le 1er juin 2001. On a commencé par une foire un matin. Notre premier client était là à 8h du matin sur la foire de Pesselière, donc on est un petit peu loin de notre secteur, mais... La foire Pessier, là-bas, c'est comme la voie du Sancerrois. Je dirais que c'est quelque chose de très important. Et notre premier client, à 8h du matin, nous a pris un demi. Et puis il m'a dit, bon, c'est bon, deux cartons, au revoir, merci. Et on l'a toujours comme client. Vous voyez qu'on a, on a démarré comme ça. Donc depuis, bah, on a eu les deux, trois premières années un petit peu difficiles. C'est vrai, quand on démarre au pied de l'échelle comme ça, avec un outil assez important qui ne tourne pas encore à sa pleine puissance, je dirais. À l'heure actuelle, on fait 600 hectolitres par an. Donc un hectolitre c'est 100 litres de bière, si ça peut vous donner, donc ça doit faire 60 000 litres de bière à l'année. Donc on sort à peu près 140 000 bouteilles dans le courant de l'année qu'on doit faire à deux. Donc ça représente pas mal d'heures de travail et pas mal de boulot. Donc on a démarré la première année à 275 hectolitres qu'on a dû faire, alors que le prévisionnel que j'avais fait était à 450 hectos, ce qui fait qu'on était à la moitié de mes prévisions. Donc quand vous démarrez comme ça, quand vous faites les comptes à la fin de l'année, bah, ça coince un petit peu dans les angles. Donc j'avais de l'argent à personne, mais quand j'ai monté cette entreprise, je l'ai montée sous une forme de SAS, donc c'est une société anonyme mais de petite taille, de manière à pouvoir, en pensant plus tard, ou la céder à mes enfants ou la vendre à quelqu'un d'autre. Mais ce montage de société fait qu'on a un commissaire aux comptes derrière nous. Donc c'est quelqu'un de toujours très pointu qui coupe les cheveux en quatre. Et la première année, enfin au bout d'un an et demi d'exploitation, il m'a laissé entendre que si on continuait comme ça encore 2-3 mois, il allait mettre la clé sous la porte. Et comme je devais de l'argent à personne, elle m'a dit « Bon, tant que vous ne devez pas d'argent, ça ira. » Mais on est quand même, je crois, pas passé loin du casse-pipe. Et puis on est... Je dirais qu'on avance, on pousse, mais la conjoncture, les choses comme ça, fait qu'on est toujours fragile. Enfin, je le ressens comme ça, et je constate qu'on est dans une... On couvre une région avec ses ventes, et qu'après, pour monter, ça devient de plus en plus difficile. Il y a de la place partout, je dirais qu'il nous manque à l'heure actuelle un commercial, parce que je ne peux pas aller tout fourrer au moulin. Donc moi, je fabrique, ma femme vend, et pour se développer, bon, il faut qu'on passe à un stade supérieur, mais bon, ça ne se fait pas facilement, c'est pas si simple que ça. Donc j'ai fait un petit tour de ce démarrage, je dirais. Donc là, on est toujours dans la salle de brassage, donc vous voyez que la hauteur des plafonds est intéressante. J'ai travaillé deux, trois semaines dans une brasserie à Marseille où le plafond était à 2 mètres au-dessus des chaudières et on avait l'impression de travailler dans un hammam. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est toujours intéressant de travailler dans une pièce agréable. Donc, cette partie personnelle terminée, je dirais, je vais vous expliquer un petit peu comment se fabrique la bière, comment je la fabrique, enfin, se fabrique un petit peu partout pareil. La bière, je vous disais que c'est un produit ancestral, ça fait plus de 5000 ans qu'on la fabrique. Donc à savoir si ça a été le vin ou la bière en premier, je ne rentrerai pas dans la polémique, sinon je risque de me faire la bière. C'est la bière, la première. Il faudra me le marquer, me le signer, ça. J'ai des preuves de ce que j'ai avancé.
C'est tout.
Bon, d'accord. Donc je vous montrais tout à l'heure la salle de brassage. Donc ça, c'est le matériel qu'on a installé avec la partie cave où on fait... La fermentation de la bière derrière. Donc, la bière est à plus de 5000 ans, on en retrouve entre autres en Égypte. Donc, la fabrication de la bière, bah, c'est quatre éléments principaux. Le premier, je dirais que c'est d'abord de l'eau. On est venu s'installer à Sancerre parce que dans la région, c'est ce qu'on a trouvé, je dirais, de mieux. C'est pas parfait encore, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 6 ans maintenant, 7 ans. Sur lequel j'essaye d'avancer. L'eau qu'on a, c'est celle qui est fournie par le réseau de la ville de Sancerre. Avantage et inconvénient. Inconvénient, c'est une eau dure et c'est une eau chlorée. Le chlore est aussi un avantage dans la fabrication de la bière. Quand on fabrique la bière, il faut savoir que pour sortir un litre de bière, on utilise à peu près 7 litres d'eau. Donc il y en a un litre dans la bière, mais il y en a 6 qui passent dans le nettoyage à côté. Donc le fait d'avoir une eau chlorée permet de faire des rinçages et d'être sûr de la qualité de son eau. Parce qu'en brasserie, je ne dirais pas qu'on travaille comme dans la laiterie, on est pas à ce niveau d'hygiène, mais c'est très important d'avoir des cuves désinfectées avant de pouvoir envoyer son produit dedans. Et l'eau chlorée, on est à peu près tranquille, en ayant une eau fournie par la ville, contrôlée par la DAS, d'avoir une eau de qualité tout le temps. Alors, on a cet avantage sur la qualité bactériologique, je dirais, de l'eau. L'inconvénient qu'on a, c'est ce chlore, et puis c'est la dureté de l'eau que j'ai à Sancerre. C'est de l'eau qui est pompée dans la nappe pluviale de Loire, et c'est une eau relativement dure, qui permet théoriquement, quand on a une qualité d'eau, on fabrique un type de bière. L'eau qu'on a là, c'est une eau qui correspond bien à la fabrication des bières ambrées et des bières brunes. Malheureusement, elle ne correspond pas à la fabrication des bières blanches ou des bières blondes, qui demandent des eaux beaucoup plus douces. Souvent dans le temps, on avait un puits, une eau, un type de bière. Maintenant, les petites brasseries sont obligées de fournir un panel de bières. On attend de la blanche jusqu'à la brune, ce que je fabrique maintenant. Et je suis en train de travailler encore à l'heure actuelle. On s'est équipé d'un système d'osmose inverse, c'est-à-dire de la fabrication d'eau pure, mais naturellement, donc c'est passage à travers une membrane, sans produits chimiques. J'essaye de rester dans cette optique de travail sans aucun additif, sans aucun auxiliaire de fabrication, comme on l'appelle joliment en brasserie. Donc on reste dans le naturel. Je ne vais pas jusqu'au bio, parce que le problème qu'on rencontre en France, c'est qu'on n'a pas de... On a des orges biologiques, mais malheureusement, on n'a pas de malterie bio. Donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'un malteur, mais dans la chaîne de fabrication de la bière, on a besoin de malter d'orge. Malheureusement, on n'a pas de malterie bio. Donc je ne peux pas aller jusque-là. Mais on m'a demandé de fabriquer de la bière bio. Et quand j'ai regardé toutes les contraintes que ça engageait au niveau brasseur uniquement... mon process de brassage à l'heure actuelle est bio. Donc je pourrais me permettre, si j'avais du malt bio, de fabriquer de la bière bio. Allez-y. Donc le premier élément, c'est cette eau. Donc je travaille dessus de manière à pouvoir fabriquer une eau, je dirais, très douce pour pouvoir faire mes bières blanches et blondes, et une eau beaucoup plus dure pour fabriquer mes bières entrées et mes bières brunes. Donc on est encore en train de travailler là-dessus. Le deuxième élément, aussi le plus important, c'est l'orge. Donc ça, c'est une photo d'orge de printemps qui est pas mûre encore. Donc c'est l'orge de printemps à deux rangs, où on voit des épis, où on a juste deux rangs de grains. Les gens pensent la plupart du temps, et on le constate comme la brasserie est ouverte tous les jours, qu'ils voient la salle de brassage, ils s'imaginent que le matin, je mets de l'eau dans une des deux chaudières, je mets de l'eau et du houblon, et que le soir, ils sortent des canettes avec de la bière à l'intérieur. Donc, je dirais que, pour vous donner une proportion... pour fabriquer 1000 litres de bière, j'utilise au départ 700 litres d'eau, donc je dois en utiliser à peu près 1400 dans la journée, avec l'évaporation et tout ça. Donc j'utilise 1400 litres d'eau. J'utilise entre 200 et 300 kg de malt d'orge, donc c'est de l'orge un peu travaillée, préparée. 200 à 300 kg. Quand j'utilise 200 kg de malt, je vais obtenir... Le but du brasseur, c'est de fabriquer du sucre. À partir d'une céréale, donc dans la céréale, quand on la récolte, on a de l'amidon à l'intérieur, de la farine en quelque sorte. Donc mon travail, c'est de transformer cette farine en sucre. Donc plus je vais utiliser de malt au départ, plus je vais avoir de sucre, plus j'aurai de sucre avec le travail des levures, plus j'obtiendrai d'alcool. Donc avec 200 kg d'orge, je fabrique une bière à 5 degrés. Avec 260-280 kg, je fabrique une bière à 7 degrés. C'est tout théorique et à la louche, je vous dis ça, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'en fonction du type de bière, là aujourd'hui, ce soir, il y avait une blonde en fermentation haute et une basse en fermentation basse, et avec moins de grains en basse, je fabrique beaucoup plus d'alcool, donc là, c'est plus technique. Bon, je vais vous donner les recettes, les choses un peu près simples, qui soient assez faciles à comprendre. Donc entre 200 et 300 kg de malt pour faire la bière, et on va utiliser à peu près 1,5 kg à 2 kg de houblon pour faire les 1000 litres de bière. Donc vous voyez quand même que c'est l'eau, évidemment. Donc quand je vends de la bière, je vends 95% d'eau, et 5% c'est l'orge qui reste, le houblon, et les levures qui restent dans certains cas. Donc l'orge pourrait être travaillée en brasserie. On utilise aussi d'autres céréales en brasserie. Là, je vous ai fait une photo de blé, c'est du blé. Donc on utilise principalement l'orge en brasserie parce que c'est un grain qui est enveloppé et que l'enveloppe de l'orge sert au cours de la fabrication. Donc c'est pour ça qu'on a toujours privilégié l'orge en brasserie, mais on peut faire de la bière aussi avec du blé. Et quand on mélange de l'orge avec du blé, on obtient des bières qu'on appelle les bières blanches, comme vous avez en vente ici. Donc les bières blanches sont faites la plupart du temps, si on prend une blanche de style belge, on va avoir 70% d'orge à l'intérieur et 30% de blé. Si on prend une blanche dans le style allemand, on a souvent des maltes de blé et ça arrive jusqu'à 80%, ils arrivent à faire des bières de blé. Donc on utilise aussi de l'avoine, on peut utiliser de l'épeautre. Et souvent les petits brasseurs, sont leur rôle, utilisent des céréales régionales pour faire de la bière. Donc, vous allez retrouver des bières au sarrasin dans le centre, en Bretagne ou des choses comme ça. Donc on a le choix de l'avoine aussi. Moi j'utilise une partie d'avoine dans la fabrication. J'ai fait une bière à la lentille, donc vous avez pu voir ce soir. Je vous avoue franchement que c'est pas fait pour faire de la bière au départ et que la mise au point de la recette a été assez compliquée. Quand vous laissez refroidir un plat de lentilles, vous avez tous remarqué que ça colle, et quand je brasse, bah, ça a aussi tendance à coller. Donc les premiers brassins que j'ai faits, je me suis vu sortir plus de 1000 litres de mou de ma chaudière avec un seau parce que tout était colmaté dedans, tout était bouché. Donc le fait d'utilisation, pourquoi j'ai utilisé la lentille? Parce que c'est un produit régional, donc c'est de la lentille verte du Berry. Quand on cherche, j'avais trouvé d'autres produits, mais qui étaient déjà utilisés par des brasseurs. Donc le but, je dirais, d'une petite brasserie, quand on fabrique des bières, c'est de se développer. C'est de se développer régionalement, mais quand on veut aller un petit peu plus loin, si on n'a pas de particularité, qu'on a la même bière que le copain qui est à 200 km, eh ben, on ne passe pas dans, quand on cherche à s'implanter. Donc c'est vrai que je peux dire aux gens, bah, j'ai une bière à la lentille, donc ça les interpelle un petit peu. Pas toujours dans le bon sens, parce que quelquefois, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie-là. Je fais maintenant, après celle-là, j'ai développé une bière fabriquée avec du gruit, donc qui est un mélange d'épices et d'aromates, qui m'a fait que c'est une bière particulière, et ça me permet de trouver des amateurs, je dirais, dans toute la France. Bon, c'est un bien grand mot, on n'en fait pas des volumes énormes, j'en fais 130-140 hectos à l'année à l'heure actuelle, donc ça, c'est pas encore un grand développement, mais ça permet de faire un produit qui se trouve pas ailleurs, qui a un goût particulier, donc c'est un petit peu ce vers quoi j'essaye de me développer à l'heure actuelle, c'est de créer des nouveaux goûts, tout en restant dans la tradition. Donc on a fait le tour un petit peu des céréales. Donc je vous disais tout à l'heure, donc là on a de l'orge de printemps qui est à maturité, je ne sais pas si tout le monde voit bien, si ça sort bien, donc qui est prêt à être récolté avant les moissons. Ça ne doit pas être de l'orge, la moisson, ça devait être du blé aussi, comme j'ai fait la photo ce jour-là. Donc là, c'est la récolte de l'orge. L'orge est récoltée au mois de juillet. Quand il est récolté, le brasseur ne peut pas travailler avec. Mon travail, c'est de transformer, je vous disais tout à l'heure, la farine qui est dans le grain en sucre. Pour faire cette transformation qu'on appelle la saccharification, on a besoin d'enzymes à l'intérieur, donc c'est des diastases, donc c'est des petits organismes qui vont casser les molécules d'amidon pour les transformer en sucre. Et pour avoir ces enzymes que je vais utiliser, on est obligé de faire germer le malt au départ. Donc dans le temps, et très souvent en Allemagne, on trouve encore beaucoup de brasseries malteries. Donc ça permet à l'entreprise de malter, donc d'avoir son orge régionale, de la malter et de brasser derrière. Donc, moi pour l'instant j'ai appris un nouveau métier de brasseur qui est déjà assez compliqué. J'ai pas voulu me lancer dans la malterie et j'ai rencontré des collègues qui se sont lancés dedans et beaucoup m'ont dit le souci qu'on rencontre c'est qu'on n'a pas un maltage régulier et que du coup on a du mal à travailler derrière et qu'on n'a pas des bières régulières. Je me suis payé une machine assez perfectionnée pour essayer d'avoir un process régulier, un travail et une qualité régulière. Jusqu'à présent, je ne me suis pas lancé dans le maltage. Ça me trotte dans la tête, mais je n'en suis pas encore là. Donc, les orges qui sont récoltées dans le centre, bon, puisque principalement j'utilise des orges du Berry, sont maltées à la malterie d'Issoudun. Donc, c'est le travail du malteur, ça va être de germer l'orge. Donc, il va la faire, je ne sais pas si on peut grossir ça un petit peu. Donc ça va être... Les photos ne sont pas toutes de bonne qualité, mais si vous aimez mieux l'orge, quand il est récolté au mois de juillet, n'est pas utilisable par le brasseur comme ça. Donc on va le laisser reposer pendant un mois et demi, deux mois, de manière à pouvoir le mettre en germination. Donc on va le faire tremper dans des bacs d'eau, en quelque sorte, pendant une heure, le ressortir à l'air, le retremper pour faire monter le taux d'humidité, et avec la chaleur, il va se mettre à germer. Donc là, dans le grain, on voit apparaître des enzymes qui vont commencer à transformer la farine du grain en sucre pour nourrir la plante. Donc on voit apparaître les radicelles et puis le petit hussard. Donc la plante fabrique du sucre pour nourrir le grain, pour qu'il pousse. Donc là, on va arrêter, donc là on humidifie le grain et on va ensuite le tourner dans des cases. Donc ça, c'est une case relativement moderne, donc qui est automatisée. Dans le temps, c'était fait dans des cases sur pierre comme ça, donc le grain est trempé, humidifié, se met à germer, Donc dans le temps, on retrouve encore en Tchéquie des aires de maltage, donc ce sont des aires en pierre, un peu les pierres comme il y a l'abbaye de Corbigny, donc un beau dallage en pierre, et on met le grain dessus et on le retourne toutes les 3 heures pour que pendant qu'il germe, il se met à dégager de la chaleur, et pour pas qu'il chauffe, donc on le remue comme ça. Donc maintenant, il y a les cases automatisées, évidemment, ça a un petit peu avancé. Donc le grain germe, ça dure 3-4 jours environ, et une fois qu'il a germé, donc là on est au stade d'après, une fois qu'il a germé le grain, il va être dégermé et il va être séché avec de l'air chaud. Donc on va le sécher avec de l'air chaud, ça s'appelle le touraillage, et en fonction de la température de séchage, on va obtenir des orges de différentes couleurs. Alors j'ai oublié de vous en amener, c'est dommage, vous auriez pu constater de voir un petit peu l'orge. Donc l'orge, quand il est malté clair, je dirais, il sort de la même couleur que de l'orge que l'on récolte dans les champs. Et plus on monte la température de touraillage, donc de séchage, c'est de l'air chaud, et on va finir sur des maltes qui sont carrément torréfiées de couleur noire. Donc on a des maltes Pilsen, donc ils sont les maltes les plus claires, du nom de la ville de Tchéquie, Pilsen, où on fabriquait ces maltes à l'origine, qui ont permis de faire les bières les plus blondes, les plus claires, donc ce qu'on appelle les pils maintenant. Et quand on monte à température, on va passer sur des maltes caramel, sur des maltes chocolat et sur des maltes noires, donc qui ont la couleur du café torréfié. Et ces différentes couleurs de maltes vont faire que par leur mélange, on va pouvoir obtenir des bières de différentes couleurs. Du malt Pilsen, on fabrique une pils, une bière blonde claire. Du Pilsen avec du Munich, que j'utilise comme chez moi, je fabrique une blonde légèrement colorée dans le style bavarois. Du Pilsen avec du caramel, on va faire une bière ambrée. Si on monte la quantité de malt caramel, vous en mettez 10%, vous avez une ambrée claire. Vous en mettez 30%, vous avez une ambrée foncée. Et il y a différentes couleurs de malt caramel, je dirais. Et quand vous rajoutez du malt chocolat ou black, vous finissez sur des bières brunes. Donc c'est comme ça qu'on donne la couleur à la bière et ses goûts de caramel qu'on trouve dans les bières plus foncées. Et on peut aussi, je vous dis, rajouter les céréales, comme tout à l'heure le blé, pour faire des bières blanches ou faire des bières de sarrasin ou des choses comme ça. Le troisième élément, donc le blé, que je finisse avec le malt, quand le malt est fini, dégermé, touraillé, il est en sachet et après il est donc donné au brasseur, où là on a, je dirais, un potentiel de, on a beaucoup d'amidon encore, mais un petit peu de sucre, on a tout le potentiel pour pouvoir fabriquer le sucre en salle de brassage. Le troisième élément, c'est donc le houblon qui rentre à proportion de 1 à 2 kg pour 1000 litres de bière. Le houblon pousse dans des houblonnières. Donc là, je dirais qu'une houblonnière, le houblon est une plante qui monte. Donc on tend des poteaux électriques ou des poteaux en bois à 7-8 mètres du sol. Et là, on va laisser pendre des petits fils de coco. Bon, à l'heure actuelle, c'est monté avec des fils de coco. Et le rhizome du houblon, donc, qui repousse tous les ans, on a une racine qui est en terre, ressort au printemps. Et en 2-3 mois, la plante met une tige comme ça qui monte jusqu'à 7,50 m, 8 mètres. La plante, pendant toute sa croissance, ne fabrique que des feuilles. Et quand elle arrive tout à fait en haut de des tiges métalliques, des câbles qui sont tendus en haut, la tige bascule dans le vide, et le fait de basculer dans le vide crée un appel de sève. Et cet appel de sève fait que la plante, au lieu de faire des feuilles, se met à faire des cônes, ce qu'on appelle des cônes de houblon. Donc ça, c'est la houblonnière quand elle est montée un petit peu plus haut. Donc là, on finit tout en hauteur. La pousse bascule dans le vide et on voit apparaître après des cônes. Donc en bout de ces tiges, en hauteur, on a des grappes de cônes comme ça. Et c'est cette partie-là qu'on va utiliser en brasserie. Et donc ça, c'est du houblon sauvage qui pousse à Sancerre. Donc je me permets une fois par an de récolter un peu de houblon sauvage. Et si vous allez dans les bois, vous pouvez en trouver. On en trouve un petit peu partout, au bord de la Loire aussi. Donc ça monte ici, tout à côté. Vous voyez, il pousse dans des ronces. Ça utilise un peu n'importe quel support pour grimper en hauteur. Donc on utilise ces petits cônes. Et dans ces cônes, on a à la base de chaque petite feuille, là, une poudre jaune. Bon, ça, on l'entrevoit un petit peu ici. Une poudre qui ressemble à du pollen, que l'on appelle la lupuline. Et c'est cette poudre jaune qui va amener l'amertume à la bière et qui va amener toutes ces huiles essentielles aussi. Donc ce houblon est récolté première semaine de septembre. Et sitôt sa récolte, il est à l'heure actuelle déshydraté en 2-3 heures. Le houblon, l'inconvénient quand on le conserve dans des sacs entiers, quand on le fait sécher lentement, c'est de perdre toutes ses caractéristiques. Le houblon apporte l'amertume à la bière, et cette amertume est mesurée en laboratoire. Et quand moi je reçois mon houblon, on me dit à l'intérieur il y a tant d'alpha, tant d'isoalpha, donc c'est des quantités d'amertume. et ça s'évapore au frigo tous les jours. Donc nous, à l'heure actuelle, ils sont compactés, rapidement, et mis dans des sacs sous gaz, ce qui fait que le producteur me garantit le houblon pendant 5 ans, qui ne bouge pas pendant 5 ans. Je fais 2 commandes par an, donc je ne vais pas jusque-là. Mais je dirais qu'entre chaque livraison, j'ai déjà des différences. Et le houblon donc, contient toutes ces amertumes et toutes ces huiles essentielles. Et pour les extraire, on va le faire bouillir au cours du process pendant 1h30 à 2 heures. Et je dirais qu'au bout 1h30 à 2 heures de cuisson, on n'a extrait que 30 à 40% de ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est ces différences de pourcentage d'extraction qui fait que jusqu'à présent, j'ai quelquefois des variations quand j'ai des nouvelles récoltes dans les goûts où on se retrouve avec des amertumes un petit peu plus prononcées. Et je constate qu'à la vente, en étant en face de mes clients, que souvent, dès qu'il y a une petite pointe d'amertume, attention, les gens ont perdu l'habitude de l'amertume dans la bière. Et c'est un petit peu dommage parce que je dirais que la bière, bah, c'est quelque chose qui déçoive, mais c'est aussi le houblon, c'est l'âme de la bière, c'est ce qui lui donne tout son caractère. Et comme les gens sont plus à l'heure actuelle dans le doux sucré, on est en train de passer à côté de certaines choses. C'est pour ça que les brasseurs sont en train d'essayer de ramener un petit peu des amertumes et de réhabituer les gens à la mer. Et bon, le Coca-Cola et tout ça à l'heure actuelle sont un petit peu les ennemis, où on est en train de s'habituer au sucré et pas à l'amertume. Donc ça, on essaye aussi de travailler ensemble là-dessus pour réhabituer les gens. Et moi, depuis que je brasse, j'ai monté un petit peu mon amertume pour que les gens reprennent un peu le vrai goût de la bière. Et c'est vrai que quand on est un peu amateur d'amertume, on retrouve des goûts dans la bière et tout de suite un caractère beaucoup plus... ça a plus de caractère. Quoi. Donc le dernier élément dans la fabrication de la bière, c'est les levures. Donc le travail des levures, donc les levures sont des organismes unicellulaires. Le travail des levures, ça va être de transformer le sucre en alcool et en gaz carbonique. Donc les levures de bière sont des levures sélectionnées. On en a à l'heure actuelle près de 3500 de répertoriés. Malheureusement, ils sont en Belgique et en Allemagne. Et je dirais que pour en avoir en France, c'est un petit peu la croix et la bannière, et que la distribution des levures avec lesquelles on travaille en France est quelque chose qui s'est perdu. Et on travaille, nous, les petits brasseurs, presque tous avec les mêmes levures. Et ça, c'est difficile de différencier des autres parce qu'on a tous un peu les mêmes choses, souches. Et le choix de la levure influence grandement la qualité de la bière et le goût qu'on veut donner à une bière. En fonction du choix de la levure qu'on fait, on va donner tel ou tel goût. Je dirais que j'ai une bière blanche dans laquelle je n'utilise pas de clou de girofle, et je sais que ma levure va lui donner un goût de clou de girofle qu'on retrouve à l'intérieur. Donc c'est ces choix qui font qu'on donne... Le clou de girofle, oui, dans la bière, ça s'utilise, ça peut s'utiliser en épices aussi. C'est pour ça que je dirais que dans la fabrication de la bière, on a un peu deux écoles. L'école allemande, où les Allemands sont obligés pour fabriquer de la bière, ça a été en 1516 une obligation de n'utiliser pour fabriquer de la bière en Allemagne que de l'eau, du houblon, du malt d'orge et des levures. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser autre chose. Donc pendant de nombreuses années, ils n'ont utilisé que ça et ils se sont différenciés par leurs recettes, alors que les Belges n'ont jamais eu cette contrainte et ont développé des bières fabriquées avec des épices, avec des aromates et des choses comme ça. C'est un peu là qu'on retrouve un peu les grandes différences, entre autres avec les types de fermentation qui sont faits. Mais c'est vrai que qu'on constate qu'il y a deux écoles tout à fait différentes, ce qui fait que sur le marché à l'heure actuelle, on constate encore des différences. Donc les levures, là, c'est une photo d'une récolte de levures. Tout à l'heure, vous avez vu mes cuves, donc j'ai des cuves 6 cylindres coniques qui permettent, quand la bière est finie, de pouvoir récupérer en pied de cuve les levures. Donc les levures, je les récupère dans un seau. Là, ce sont des levures. Quand je fais une tournée de bière, j'en récupère 30, 40, 50 litres. Donc là, quand elles sont dans le seau comme ça, à l'air libre, c'est des levures que je vais jeter, que je vais prendre utiliser pour réensemencer un autre brassin. Donc, je réensemence un autre brassin, j'ai un autre mode de prélèvement où tout est aseptisé au départ pour ne pas aller pourrir mon brassin derrière. Parce que là, à l'air libre, comme ça, on prend quand même des gros risques. Et je dirais que ça a toujours été un peu ma hantise. La bière est un produit relativement fragile et la moindre erreur, comme je ne pasteurise pas dans mon travail, la pasteurisation est arrivée à la fin du siècle dernier, c'était le siècle d'avant. Je dirais que ça s'est développé beaucoup dans l'industrie, ça permet de protéger le produit. Ça permet aussi, ça lui fait changer aussi de caractéristiques. Et c'est un petit peu la grande différence des bières artisanales et des bières industrielles, où on n'a pas de filtration, j'en fais, sur certaines, mais on a une refermentation en bouteille ou de la bière embouteillée sans pasteurisation, donc il ne faut pas qu'il y ait de bactéries à l'intérieur, donc on ne peut pas prendre de risque pour que le produit puisse tenir dans le temps. Un produit non pasteurisé va tenir à peu près tranquillement un an si on a bien travaillé, un an et demi, 2 ans, 3 ans, 5 ans quand elles sont fermentées en bouteille, et la pasteurisation permet... certaines erreurs, je dirais, dans le cours de la fabrication, ou quand vous avez fini votre bière, ben, s'il y a quelques bactéries à l'intérieur, une bonne filtration, une pasteurisation, et puis c'est en bouteille ou en fût, ça ne bouge plus, quoi. Mais on perd pas mal de goût dans la manœuvre, là. Donc, là sont les éléments. Donc, je vous disais tout à l'heure que mon travail de brasseur, ça va être de transformer ce grain d'orge, cette farine en sucre. Donc, il y a deux étapes. Il y a une journée de travail en salle de brassage, donc la partie que vous avez vue tout à l'heure, où dans cette salle de brassage, en une journée, je vais fabriquer un jus d'orge sucré houblonné. Donc, je compare avec le vin où le vigneron récolte son raisin et passe au pressoir pour récupérer son jus de raisin. Donc, à partir du jus de raisin, on va fermenter pour faire du vin. Moi, je fais du jus d'orge houblonné, un jus d'orge sucré houblonné, auquel je vais rajouter mes levures pour mettre en fermentation et donner de la bière. Donc, je dirais que mon travail en salle de brassage, qui dure une journée, va être de fabriquer ce jus d'orge. Donc, pour le faire, je vais commencer à moudre mon malt d'orge dans un concasseur. Donc, c'est un rouleau comme ça. Enfin, c'est un moulin avec deux rouleaux à l'intérieur qui va écraser le grain et qui va... c'est pas ce que je voulais faire. Donc à la sortie, on va obtenir une mouture comme ça, où je vous disais tout à l'heure qu'on utilisait le malt d'orge parce que c'est un grain enveloppé. Donc dans la mouture, on retrouve des enveloppes de l'orge, des gros morceaux que l'on appelle le gruau et de la farine. Donc ce mélange de l'épaisseur de cette mouture va donner un petit peu les caractéristiques à la filtration par la suite. Donc on conserve ces enveloppes, on essaye de ne pas casser pour pouvoir filtrer son produit par la suite. Donc le malt est moulu, il est envoyé, bon ça c'était les débuts encore, je ne m'étais pas payé de vis à grain, maintenant je le fais autrement. Donc ça c'est ma première cuve que l'on appelle la cuve matière. Donc je vais la remplir avec 700 à 800 litres d'eau à 50 degrés, et je vais verser dedans mes 200 à 300 kg de malt. Donc cette phase-là s'appelle l'empattage. Donc maintenant c'est fait, j'ai une trémie avec une vis sans fin, donc mon moulin à malt monte directement ça dans la trémie, et j'envoie mon malt dans l'eau quand elle est à la bonne température. Donc ça, cette phase-là s'appelle l'empattage, et le mélange obtenu en français s'appelle la maïche. Donc ça c'est l'intérieur de la cuve, donc vous voyez tout à l'heure l'extérieur est en cuivre, j'ai pas dû finir ma phrase tout à l'heure. L'extérieur est en cuivre et l'intérieur est en inox avec les normes actuelles. Et j'avoue que je regrette un petit peu de ne pas avoir un intérieur en cuivre parce que le cuivre a une action sur la fabrication de la bière. J'étais cuisinier quand je montais mes blancs, et je les monte encore maintenant dans les culs de poule en cuivre, et les blancs se montent beaucoup mieux dans du cuivre parce qu'il y a une réaction chimique avec le cuivre et l'oxydation du cuivre. Et je pense que pour la bière c'est pareil. Et maintenant, si c'était à refaire, je pense que j'essaierais de trouver une machine d'occasion pour pouvoir travailler dans le cuivre. Est-ce que ça va être toléré longtemps? Je ne suis pas sûr, avec tout ce qui nous tombe sous le dos et comme réglementation à l'heure actuelle. Mais bon, je pense que d'ici quelques temps, je vais faire tremper des plaques de cuivre dans ma chaudière, comme ça j'aurai mon cuivre autrement. Je vais tricher là. Donc le mélange obtenu s'appelle la maïche, c'est un nom d'origine allemand, qui signifie soupe, salade. J'ai rencontré des brasseurs à la retraite qui m'ont dit « on appelle ça encore la soupe ». Donc ça ressemble à une soupe de céréales, ça sent le pain chaud en quelque sorte. Donc ça, c'est la maïche à l'intérieur. Et cette maïche, on va la monter à différentes températures. Donc pourquoi je la monte en température? Donc cette cuve est équipée d'un chauffage vapeur par le dessous. On a démarré l'empattage à 50 degrés, on peut le démarrer plus haut, je suis en train de travailler aussi là-dessus. Mais je dirais que pourquoi on travaille en température, c'est pour activer les enzymes qui sont à l'intérieur du grain. Dans le grain, on a deux enzymes principales. Il y en a une qui travaille à 62 degrés et l'autre à 72 degrés. Alors dans le grain, quand elle travaille pour fabriquer du sucre, elle ne travaille pas à cette température-là, on est bien d'accord. Mais là, en peu de temps, on va transformer tout l'amidon, toute la farine en sucre avec ces deux enzymes. Donc il y en a une qui travaille à 62 degrés, qui fabrique des sucres qui fermentent. La deuxième travaille à 72 degrés et fabrique des sucres qui ne fermentent pas. Et en fonction des temps de repos qu'on va appliquer, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, on va fabriquer plus ou moins de sucre. Si on fabrique beaucoup de sucre fermenté cible, on va avoir une bière alcoolisée mais sèche. Si on fabrique beaucoup de sucre non fermenté cible, on va avoir une bière douce mais moins alcoolisée. Donc je vous disais qu'avec le malt, on pouvait faire différentes choses. Donc en fonction des types d'empattage et qu'on fait des montées en température. Donc là, on va monter les températures tout doucement. 62, 72, 74 degrés. Là, la saccharification, donc toute la transformation de l'amidon doit être faite au bout d'un certain temps. Donc ça, on fait une mesure, on en prélève un petit peu, on mélange ça avec de la teinture d'iode. La teinture d'iode, quand elle est en présence, est orange, de nature orange. La teinture d'iode, vous avez tous vu, quand vous mettez de l'amidon dedans, ça vire au bleu. Donc tant que vous faites votre test et que ça vire au bleu ou au violet, c'est que votre amidon est encore présent. Donc on prolonge le temps de palier jusqu'à temps que la saccharification soit totale et qu'on n'ait plus du tout d'amidon à l'intérieur. Donc là, on va monter les paliers de température. Donc ça, c'est une fenêtre qui est sur la cuve, sur le côté de la cuve. Donc on voit un petit peu le mélange qu'on obtient, qui est un mélange un petit peu blanc laiteux à l'intérieur de la cuve. C'est agité par une hélice à l'intérieur. Donc le brasseur, enfin, le nom de brasseur a plusieurs. Je dirais que c'est brassé tout le temps et que dans le temps, c'était agité avec un fourquet, donc une espèce de grosse fourchette en bois de la taille d'une pelle à pain. Et qu'on brassait le brassin pour que toute cette saccharification se fasse, que les enzymes travaillent, il fallait les agiter en permanence. Maintenant, il y a un moteur dessous avec un agitateur. Donc, je suis un brasseur artisanal, un petit peu feignant, donc je suis un peu moderne là-dessus. Donc, j'ai voulu. Tout ça s'est fait automatiquement. Donc, à l'intérieur, on monte un peu les températures, la couleur commence à changer, donc vous voyez que ça prend de la couleur. Et si on monte, si on fabrique des bières brunes, avec les cuissons, on arrive à avoir, vous voyez, la même maïche qui prend de la couleur. Donc là, c'est la cuisson de ma bière brune, donc pas celle qu'il y a là, mais une encore un peu plus foncée. Et quand je la fabrique, je la fais cuire, je la monte à 100 degrés. Ça, sont des méthodes allemandes anciennes, où on travaille par décoction. Donc vous connaissez tous l'infusion que vous faites avec votre thé. Donc vous faites bouillir une tisane. Là, on fait de la décoction, on fait bouillir. Et les Allemands travaillent encore en décoction. Et ces décoctions sont complexes à faire. C'est pour ça que j'ai mon informatique qui me permet de monter mes températures et de prélever une partie. Vous voyez que la cuve à l'intérieur n'est pas pleine parce que j'en fais bouillir qu'une partie. Enfin bon, ça c'est un petit peu le côté compliqué, mais qui permet d'amener ces couleurs et qui me permet de faire bouillir mes enveloppes, d'extraire des tanins, d'extraire des couleurs. Donc c'est un petit peu là-dessus aussi que je travaille dans mon style à l'allemande. Quand la maïche, donc la saccharification est faite, on monte encore la température à 78-80 degrés. Là, on arrête le travail des enzymes parce que ça les tue. Et on envoie dans la deuxième cuve de la salle de brassage que vous avez vue en cuivre, donc qui est une cuve filtre. C'est une cuve qui est équipée d'une grille percée au fond. Donc il y a un piocheur à l'intérieur qui va permettre de faire l'agitation. Donc on a une grille qui est percée au fond. Donc c'est un perçage spécial aussi pour pouvoir obtenir une bonne filtration. C'est-à-dire que c'est percé par l'envers de la plaque. On voit les rainures, mais c'est fait un petit peu plus compliqué que ça dessous. Donc là, on va envoyer toute la maïche à l'intérieur dans la cuve filtre qui est équipée d'un double fond. Donc ça va permettre de pouvoir récupérer le jus sous cette grille de filtration et on va pomper sous le dessous de la cuve, le recycler sur le dessus. Donc les enveloppes de malt qu'on a conservées à l'intérieur vont servir de filtre. C'est elles qui sont entrelacées qui vont permettre de récupérer les particules. Quand on commence à faire le recyclage, on a un mou qui est blanc laiteux, de la couleur un peu de la maïche du départ. Et quand on a... Donc ça, vous voyez, c'est... On envoie dans la cuve filtre et on laisse reposer la maïche. Quand on ne l'agite pas, elle se dépose. Donc tout le malt se dépose au fond et le mou reste sur le dessus. Donc là, c'est toujours la même. On est sur une bière ambrée, donc on voit les différentes couleurs. C'est les différentes phases de la filtration. Donc vous voyez un petit peu la couleur. On voit même à l'intérieur les petits germes de malt qui flottent. Donc ça, c'est vu de l'intérieur de la cuve filtre quand elle est pleine. Donc on recycle le mou en le prenant dessous, on le remet dessus, ça se clarifie, ça passe par une mire sur le côté qui permet de contrôler la clarté. Quand le mou est clair, on va le renvoyer dans la première chaudière qui a servi la cuve matière, qui va à ce moment-là changer de nom, qui va devenir une chaudière à houblonner. Et là, on va faire bouillir le malt pendant... Le mou, pendant une heure et demie. Cette phase de filtration dure à peu près 3 heures. Si je continue comme ça, je vais faire autant. Pendant 3 heures, on va pomper le mou sous la grille et on va laver avec de l'eau chaude au fur et à mesure. Ce qui fait que le premier mou pour une bière blonde est à peu près de cette couleur-là. 3 heures après, le jus qui coule est clair quasiment comme de l'eau de roche et ne contient plus du tout de sucre à l'intérieur. On envoie le mou donc, dans la chaudière houblonnée et on va le faire bouillir pendant une heure et demie. Pendant ce temps-là, donc pendant que ça bout de l'autre côté, moi je vais ouvrir les vannes. Donc là, on est dans la cuve filtre toujours. Je laisse égoutter tout le mou qui reste à l'intérieur et je vais sortir le résidu du malt qui porte le nom de Dresch. Donc ça, c'est utilisé dans comme nourriture animale. C'est une nourriture qu'on donne principalement aux vaches laitières. Ça leur permet de donner, avec un apport de Dresch, 7 à 8% de lait en plus. Donc moi, à l'heure actuelle, à Sancerre, on a essayé les chèvres parce qu'on a un tas de chèvres, mais elles n'aiment pas ça. Donc ça leur donne de l'acidose, pour être précis. Donc on a trouvé, il y a peu de vaches laitières là-bas, donc on a trouvé que des sangliers à qui donner ça. Donc c'est recyclé comme ça, et de temps en temps, j'ai droit à un cuisseau de sanglier, donc je retrouve mes drèches autrement. Donc on fait, dans la chaudière houblonnée, on va faire bouillir le mou. On va rajouter le houblon. Donc là, c'est le houblon sauvage que j'avais récupéré quand j'ai fait un brassin avec le houblon sauvage. Donc le moût est dans la chaudière et boue pendant une heure et demie. Donc pourquoi on fait cette ébullition d'une heure et demie ? Bah, pour stériliser le produit et pour aussi extraire les amertumes de la bière. C'est très long à extraire. On en a extrait au bout d'une heure et demie que 30 à 40%. Donc c'est pour ça qu'on fait cette ébullition. Ça permet aussi de récupérer certaines protéines. Quand le mou boue, il est un peu trouble comme il est là, si vous aimez mieux. Et au bout d'une heure de cuisson, tout d'un coup, il devient clair avec des petits flocons à l'intérieur. Ça ressemble à une boule de neige qu'on retourne. Et les flocons sont des flocons de protéines. Donc on va récupérer ces flocons de protéines et le houblon qu'on a ajouté dedans. On va les récupérer dans un whirlpool. Donc ça, c'est un nom d'origine anglaise qui signifie tourbillon. Donc le whirlpool, on va envoyer le moût à l'intérieur du whirlpool par une arrivée tangentielle. Dès que le moût arrive à toute allure dans la cuve sur le côté, ça va créer un effet de tourbillon. On va laisser reposer une demi-heure. Et cet effet de tourbillon fait que toutes ces particules de houblon et de protéines se retrouvent comme un gros gâteau, comme une île flottante en quelque sorte, au fond de la cuve. Une fois qu'on va avoir laissé ce temps de repos, on va faire passer le mou dans un échangeur à plaque, donc un refroidisseur en quelque sorte. Donc ça, c'est un espèce de... ça ressemble à un radiateur. Donc on a une cinquantaine de plaques qui sont collées les unes aux autres. Entre deux plaques circule de l'eau de ville et entre deux plaques du mou. Et ainsi de suite, 50 fois. Et ça permet d'avoir un échange thermique entre l'eau de ville et puis mon mou. Donc mon mou, lui, sort de mon échangeur. Il est à 98 degrés, donc je fais un montage avec une pompe mobile donc mon mou étant envoyé dans l'échangeur et ressort par les tuyauteries pour aller dans la cave de l'autre côté. Donc le mou rentre à 98 degrés, l'eau de ville rentre à 15 degrés à peu près et ressort à 80 degrés. Donc ça me permet de récupérer une grosse partie de l'énergie que j'ai dépensée pour faire bouillir mon mou et ça me permet de préparer l'eau pour le brassin du lendemain. Ça permet aussi de faire chauffer mon eau et comme elle est stockée à 80 degrés et agitée, de la déchlorer parce que je la déchlore sur charbon actif avant. Mais le fait de chauffer l'eau, ça permet de perdre des carbonates à l'intérieur. Donc ça me permet de récupérer de l'énergie et d'adoucir l'eau un peu naturellement. Donc on refroidit le mou, là. On va le refroidir à 10 degrés ou à 20 degrés en fonction du type de fermentation qu'on veut faire. Il existe deux grandes écoles en brasserie. La fermentation haute qui correspond un peu à ce qu'on appelle les halles, bière belge, bière du Nord, bière anglaise. Et la fermentation basse qui correspond plus aux bières d'Europe centrale. Bières allemandes sont presque toutes faites en fermentation basse. Donc fermentation basse 10 degrés, fermentation haute 20 degrés. C'est très théorique parce que c'est plus ou moins, ça dépend des recettes des brasseurs. Là ce soir on a amené deux bières où vous avez la blonde qui est une fermentation haute, où on a encore une partie un petit peu sucrée et tirée dedans. L'ambré est une fermentation basse. Quand j'envoie mes...
Là j'ai eu les lentilles.
Voilà, ça après c'est une question de goût.
Ouais, voilà,
il y a une école belge et une école allemande. Donc l'ambré est une recette viennoise. Après c'est une histoire de goût et je dirais quand les gens rentrent chez moi et me disent laquelle est la meilleure, je dis je sais pas ce que vous allez aimer.
Toi t'es mieux l'ambré.
J'ai 4 personnes, je vais avoir 4 avis différents. Certains vont pas aimer du tout. C'est un petit peu comme la cuisine, je dirais. Il y a des plats que vous aimez, des plats que vous aimez pas. Donc on envoie, ça sort du refroidisseur. Ça va être oxygéné, donc refroidi, oxygéné. Là, on va apporter de l'air stérile à l'intérieur pour apporter de l'oxygène à l'intérieur du mou. Parce que quand on démarre une fermentation, les levures sont très gourmandes en oxygène et ont besoin d'oxygène pour se développer. C'est pour ça qu'on fait une oxygénation comme ça. On envoie donc le mou avec les tuyauteries, on va envoyer à travers la cave. Donc j'ai des tuyauteries qui me permettent de relier les différentes cuves. Donc on va relier la sortie du refroidisseur avec le tank et on va envoyer le brassin dans les tanks. Donc là j'ai des tanks qui font 20 hectolitres, ma salle de brassage fait 10 hectos, donc j'ai 1000 litres, j'ai des cuves de 2000 litres. Donc je vais brasser 2 jours de suite, je mets à peu près 10 heures à 12 heures pour faire un brassin complet. La plus courte me met 8h30 à peu près, la plus longue me met 13 heures. Donc on envoie le mou et je brasse 2 jours de suite la même bière pour remplir mon tank. Au moment où je remplis ma cuve, je rajoute mes levures. Donc je peux ou les rajouter par-dessus ou les injecter dans les tuyauteries au cours du refroidissement. Donc j'ai deux systèmes possibles. Donc là le mou, je ne sais pas ce que j'ai mis. Oui, là on voit le mou qui passe à travers la mire au moment où il rentre dans la cuve. Donc là on se retrouve en cuve. Ce sont des cuves cylindroconiques qui sont... Là, on a encore la bière qui passe à l'entrée de la cuve, là, donc le mou. Donc là, on est sur un jus d'orge sucré houblonné. On est au même stade que le jus de raisin, si vous aimez mieux. Et là, on rajoute les levures pour démarrer la fermentation. Donc, on va fermenter dans des cuves cylindro-coniques, qui sont des cuves closes. C'est-à-dire qu'au cours de la fermentation, je peux fermer mes cuves et les monter en pression. Donc, si je ferme mes cuves et que je les monte en pression, je vais saturer ma bière. Donc le travail des levures qu'on a rajouté, ça va être de fabriquer de l'alcool. En même temps, ça fabrique du gaz carbonique. Quand on fabrique 20 hectolitres de bière, on fabrique 40 hectolitres de gaz carbonique en même temps. Et donc si on monte en pression, on va saturer la bière à l'intérieur du tank. Ce qui fait que la bière, au bout de sa période de fermentation, va être passée à ce qu'on appelle en garde. Donc la fermentation va durer 3-4 jours quand on est en fermentation haute, 10, 12, 14 jours quand on est en fermentation basse. Si on monte la pression, donc on va la saturer, on va la descendre en température dans les cuves. Donc ce sont des cuves qui sont thermorégulées, qui ont une double enveloppe, avec un circuit d'eau glacée qui tourne autour et qui permet de contrôler la fermentation. Quand ça fermente, ça chauffe. Donc pour respecter les températures de fermentation, on a des refroidissements qui sont faits au fur et à mesure. Et après, avec l'eau glacée, on va descendre la bière, la mettre en garde aux alentours de 0 degré. Alors c'est de l'eau glacée avec laquelle je travaille, donc je ne peux pas descendre à 0. Je suis à 1 degré à peu près. Et là, on a une période de garde qui va durer de 3 à 6 semaines en fonction des différentes bières. Une bière blanche, je la garde 3 semaines. L'engrais que je fabrique là, je la garde 6 semaines. Donc cette période de garde va permettre d'affiner le produit, de lui donner ses goûts, comme un vin que l'on garde avant de commercialiser pendant un certain temps en fût ou pour lui donner des goûts. Là, il s'affine. Fermentation haute, fermentation basse, donc je dirais qu'on a des temps de fermentation différents. Quand on fait de la fermentation basse, c'est souvent plus long. On a des parfums moins forts, mais plus en finesse. Fermentation haute sont plus rapides, mais développent beaucoup plus de fruité, des arômes, des esters. Donc on a souvent des bières de fermentation haute qui sont très souvent refermentées en bouteille et qui développent, je dirais, beaucoup plus de parfums que les bières de fermentation basse. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure que quand on fermente, on peut fermer les cuves. Si on laisse la cuve ouverte, on va faire le même process, mais je dirais qu'en une quinzaine de jours, on va finir sa bière, mais quand elle sera finie, on n'aura pas de gaz carbonique à l'intérieur. Donc là, pour pouvoir la saturer, sa bière, au moment de l'embouteillage, on va rajouter du sucre à l'intérieur, donc j'appelle ça une liqueur, parce que je fabrique une liqueur à l'heure actuelle. On rajoute un sucre, les Allemands rajoutent du mou, ils restent toujours dans leur politique de loi de pureté. Donc au lieu de rajouter une liqueur comme je fais, comme du champagne, quand vous faites une refermentation en bouteille de votre champagne, vous rajoutez une liqueur au dernier moment. Là on va rajouter une liqueur, donc les Allemands rajoutent du mou pour rester naturel. Et on va embouteiller immédiatement la bière. La présence de levure qui reste à l'intérieur, s'il y en a pas assez, on peut en rajouter. Donc c'est pour ça que vous avez des bières refermentées en bouteille, où vous avez toujours un dépôt dessous, parce que vous avez une refermentation en bouteille. Donc vous embouteillez un produit qui n'a pas de gaz, on met la bière pendant 10 à 12 jours dans une chambre chaude, elle refermente en bouteille. Alors ça a l'avantage de mieux protéger le produit, de faire des mousses qui tiennent beaucoup mieux, et de durer beaucoup plus dans le temps. Et une fois qu'elle a refermenté en bouteille, on peut, je dirais, la repasser au froid, on lui fait une période de garde au froid, et on peut la commercialiser après. Donc grosso modo, pour fabriquer une bière, il faut entre 4 et 8 semaines. Quand on les refermente en bouteille, ça permet d'aller un petit peu plus vite, mais ça permet aussi de libérer ses cuves plus rapidement. Donc on peut avoir une rotation beaucoup plus rapide. Quand on sature en tank et qu'on fait des gardes froides, donc quand vous voyez une bière, vous avez marqué dessus « bière de garde », ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre à la cave et puis la garder pendant des années. Ce n'est pas fait pour ça la plupart du temps. Ça veut dire que le brasseur l'a mis en garde et l'a mis en garde, l'a bien prévenu. Et il l'a gardé au froid pendant quelques temps. Donc, là, on est toujours sur la cave. Je ne sais pas si j'ai mon embouteilleuse. Là, j'ai fait une photo pour vous montrer ma pompe mobile qui me sert. Là, je suis en train de nettoyer un tank. Donc, on a un système de recyclage, de nettoyage. Parce que le brasseur passe la moitié de son temps à faire du nettoyage. Dans une semaine de travail, il me faut 5 jours à peu près pour sortir 20 hectolitres de bière. Entre 2 jours de brassage, une journée et demie de nettoyage, une journée d'embouteillage. Donc, on passe pour la moitié de son temps à nettoyer, mais presque, c'est quelque chose de très important, le nettoyage. Donc quand la bière est finie dans le tank, on va la filtrer ou pas la filtrer. Ce soir, vous avez une ambrée qui a été filtrée, et vous avez une bière blonde qui n'est pas filtrée. La bière blonde est une bière saturée en tank, mais que j'embouteille sans filtrer. On a un léger dépôt au fond, et puis on attend avec le temps. Le dépôt, c'est un dépôt de levure, c'est un dépôt de particules de lentilles. Aussi, la lentille est quelque chose de collant, donc on retrouve la colle au fond de la bouteille. Quand on attend un peu, on a les lardons même qui arrivent, après les saucisses. Mais bon, ça tombe souvent dans une brasserie artisanale, ne filtre quasiment rarement ses bières. Il y en a, je le fais, j'ai démarré dans le style allemand, je filtre, c'est plus long, c'est plus cher. Et donc on utilise un filtre à plaque comme ça pour avoir une bière claire, ce que les gens préfèrent la plupart du temps. Malheureusement, une bière, plus elle est claire, plus elle est filtrée. Plus elle est filtrée, plus on lui retire de ses goûts et de ses caractéristiques. Je dirais qu'on gagne certaines choses, mais on en perd de l'autre côté. Donc ça, c'est un choix, et puis c'est un goût après, en fonction de ce qu'on veut. Bah, souvent, les bières sur levure sont plus goûteuses. Les bures sont bonnes pour la santé. Elles sont souvent, quand les bières ne sont pas trop propagées, encore vivantes dans la bouteille. Et souvent, les amateurs de bière comme ça versent la moitié de leur bouteille doucement en l'ayant stockée debout pour avoir au début une bière claire. Et à la moitié de la bouteille, ils agitent la bouteille pour avoir la deuxième partie trouble avec ses levures. Alors, il est évident que quand on attend la fin de la bouteille sans la remuer, ce qui coule à la fin, si ça n'a pas été remué, ça coule trop épais et c'en est un peu désagréable. Et des fois, certains embouteillages que j'ai eu fait, on avait trop de levures, j'ai eu des clients mécontents. Mais bon, c'est toujours quelque chose de difficile à mesurer précisément parce qu'en fonction de la fermentation, du temps de garde et tout ça, j'arrive à maîtriser, mais on a quand même un certain côté artisanal. Donc c'est filtré ou c'est pas filtré. Là, on était en cours d'une filtration sur une bière blonde que je fabrique dans le style allemand. Donc là, je vais pomper ma bière dans ma cuve cylindroconique. Elle passe à travers le filtre qui va retenir toutes les levures. Et je la renvoie dans un tank, celui qui était en nettoyage avant, là, qui est un tank qu'on appelle un tank de bière finie. C'est-à-dire que c'est un tank qui est plat, qui est refroidi, mais qui permet de monter en pression pour faire l'embouteillage. On embouteille la bière quand elle est saturée à 4 kg de pression. Il faut qu'il y ait 4 kg de pression dans la bouteille pour pas qu'elle mousse à l'embouteillage. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un tank de bière finie, qu'on filtre, et après on passe à l'embouteillage. Donc l'embouteilleuse que j'ai est une embouteilleuse isobarométrique, donc elle me permet d'embouteiller sous pression, elle me permet aussi d'embouteiller sans pression, parce que maintenant je fais les deux styles avec pression ou sans pression, refermenté ou pas refermenté. Donc ça je vais vous expliquer un peu les différentes bières après, rapidement, pour ne pas vous lasser. Donc là on a une embouteilleuse isobarométrique où les bouteilles arrivent de ce côté-là, font le tour de la cloche qui est ici, qui est pleine de bière. On a des canules de remplissage, donc la bouteille monte sous la canule, sort, est mise... balayée, enfin mise sous vide, balayée au CO2, remise sous vide, remplie par la suite, elle redescend et immédiatement après elle passe sous la capsuleuse. Vous voyez, vous avez de la mousse, donc on embouteille sur mousse et on a un petit jet d'eau ici quand il n'y a pas assez de mousse que l'on fait marcher de manière à ne pas emprisonner d'air dans la bouteille. Là, il faut surtout qu'il n'y ait pas d'air pour pas qu'elle s'oxyde par la suite. C'est que du gaz carbonique. C'est capsulé et ensuite en sortie d'embouteilleuse. C'est sur la mienne maintenant, c'est étiqueté avant. Donc là, on est sur la partie capsulage avec le rinçage des bouteilles. Donc j'ai un petit robinet qui coule là pour laver mes bouteilles, de manière à ce que vous ayez des bouteilles relativement propres la plupart du temps. Donc ça, bah, c'est toute la gamme que l'on développe. Et l'étiquetage se fait. Je croyais avoir mis des... Enfin bon, il y a l'étiquetage, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Donc à l'heure actuelle, là, les bouteilles étaient embouteillées jusqu'à présent sans étiquette. Maintenant, j'ai changé, j'étiquette avant, de manière à avoir une bouteille finie à la sortie d'embouteilleuse. Donc on a développé depuis 6 ans maintenant une gamme. J'ai commencé avec les 3 bouteilles qui ont un peu le même style d'étiquette. Donc la rose blanche qui était dans le style allemand au départ. Une bière blonde de fermentation basse qui est filtrée. Une bière ambrée que vous avez ce soir. Donc là qui est une bière fermentation basse filtrée dans le style viennois. Donc ça a été mon démarrage tout à fait dans le style des bières allemandes. Quand j'étais parti dans cette optique-là. Je suis venu par la suite à fabriquer une bière donc en fermentation haute, saturée en tank, qui est non filtrée, mais quand même relativement clarifiée, quoi, relativement claire, donc qui fait 6,9 degrés, qui est faite avec du malt d'orge, de l'avoine blanche du Pays Fort, là, donc le Pays Fort est une partie derrière Sancerre, là, qui est au-dessus, et puis des lentilles vertes de Berry. Donc après, j'ai développé une sancerroise, la sancerroise au gruit. Donc le gruit est un mélange de 14 épices aromates. Le gruit était utilisé au Moyen-Âge par les brasseurs avant l'utilisation du houblon. À la fin du Moyen-Âge, on a commencé à utiliser le houblon et c'est devenu l'ingrédient, le seul aromate de la bière en quelque sorte. Dans la loi de pureté, c'est toujours, on n'a droit que houblon. Et à cette époque-là, on utilisait le gruit. Donc c'était le retour des croisades, les premiers retours des épices au Moyen-Âge. Et donc les apothicaires fabriquaient un gruit pour le brasseur. Donc le brasseur, à chaque fois qu'il brassait, allait chez l'apothicaire pour chercher son gruit et ça servait en même temps à payer les droits d'assises sur la bière. Donc, les droits d'assises sont toujours là, vous n'allez pas vous inquiéter, vous les payez toujours plein pot, c'est-à-dire qu'on paye à peu près 9 fois plus que sur du vin. Donc on paye, un vigneron paye, enfin payé à l'époque, on était en francs, je me souviens de ça, vous payez 22 francs pour un hectolitre de vin. Et moi, je payais 17 francs par degré d'alcool de bière. C'est-à-dire que je multiplie en fonction du nombre de degrés. Quand on fait le calcul, si on met une bière à 12 degrés, on paye 9 fois plus que pour le vin. Et c'est resté. Depuis l'Europe, le seul avantage qu'on a eu, c'est qu'ils nous ont, petits brasseurs, diminué par deux. Donc on a eu ce seul avantage. Quand on est en dessous de 3000 ou 4000 hectos, je crois qu'on est vraiment au bas de l'échelle. Mais vous voyez que le système de taxes n'a pas changé. Et puis la dernière qu'on a faite, ça a été la Val d'Or. Donc là, cette brune a été développée dans le style bière belge. Donc ça a été la première refermentée en bouteille que j'ai faite. Donc fermentation haute, refermentée en bouteille. Et après, j'ai ressorti une ambrée, une rousse un peu plus claire, refermentée elle aussi en bouteille. Donc voilà un petit peu ce qu'on fabrique depuis 6 ans. Le développement, ben, c'est principalement autour de la brasserie. Je dirais que c'est dans les 100 km à la ronde. Pardon. On s'implante tout doucement, mais comme on est deux, ben, ça va pas trop vite. Quoi. Puis je dirais que jusqu'à présent, c'était un bien de parler trop vite pour avoir le temps de mettre les choses au point et puis de travailler à peu près sérieusement, quoi, je dirais, tranquillement, et d'apprendre aussi mon métier. je crois qu'on a fait le tour. Mon développement, c'est on vend à peu près 50% à l'heure actuelle de notre production. Donc là, c'est les étiquettes des différentes marques que je vous ai dit. Donc la Rousse Blanche, la Drôleste, c'est toute la gamme. La Sancerroise qui a obtenu une médaille d'or, une médaille de bronze, pardon, excusez-moi. Menteur. Menteur, voilà, ça y est, je suis volé là. En 2004, au concours agricole à Paris. Donc ça, c'est l'étiquette de la Val d'Or que j'ai modifiée un petit peu. Donc ça a été d'abord une bière de mars. Donc la fabrication des étiquettes, bah, c'est moi qui m'en charge aussi. Donc vous voyez, quand on dit que pour faire une brasserie, bah, il faut tout faire. Donc j'ai fait les maquettes, c'est pour moi les imprimes quand même, j'ai affaire à un imprimeur. J'ai créé toutes mes étiquettes. Celle-là, notamment, représente une peinture sur verre que j'ai faite pour obtenir cet effet de vitrail. Alors, quand j'ai fait ma peinture sur verre, c'était superbe, avec la lumière de l'autre côté. Et quand on passe sur une imprimerie puis qu'on colle ça sur du papier, ben, ça n'a pas du tout le même rendu, mais bon, ça sort à peu près. L'étiquette plaise et c'est un petit peu le principal. Donc, ça, c'est les gammes. Et puis on développe des bières de saison, comme la bière de Noël qu'on a appelée, maintenant j'ai changé l'étiquette, c'est une bière d'hiver. On a une bière de printemps aussi maintenant. Donc j'ai abandonné le terme Noël et mars parce que c'est court dans le temps. Mais bon, dans les ventes, c'est pas trop gênant. J'ai préféré baptiser ça bière de printemps. La dernière, c'est la dernière que j'avais faite. Ça, j'avais fait une bière de printemps avec du parfumé au romarin. Donc là, je suis tout à fait dans le style des bières belges et je suis loin de la brasserie allemande. Donc on a une petite boutique de vente sur place. Donc ça nous permet de vendre 50% de nos produits. Les autres 50% sont faits, on a dû faire cette année à peu près la bascule, moitié à l'entreprise et moitié dans les magasins, dans les petites et moyennes surfaces du coin. Ça commence à se développer tout doucement. Mais bon, c'est du temps. Et dès qu'on commence à rentrer un peu dans les grandes surfaces, bah, ils vous demandent des animations. Du point de vue tarif, ils ne nous embêtent pas. Ils se servent un petit peu de nos produits pour redorer leur blason en quelque sorte, pour mettre une petite brasserie artisanale dans le coin. Et à côté, ça permet de vendre des bières de l'autre côté, de faire des animations dans les magasins. Bon, bah, j'ai fait longuement le tour. Oui, j'ai été bavard. Je vous avais prévenu, mais bon, je n'avais pas regardé ma montre, j'aurais dû me prévenir. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser? Non, ça vous a paru clair dans le process de fabrication et long. Vous voyez, c'est aussi long à expliquer qu'à fabriquer. Fermentation spontanée, donc là on retrouve ça en Belgique principalement. C'est la spécialité des bières fabriquées à Bruxelles. C'est la fabrication des lambics qui sont faits une partie orge et beaucoup de blé à l'intérieur. Et moi, quand je fais j'envoie mon brassin dans la cuve, je rajoute des levures que j'ai sélectionnées. Les brasseurs, quand ils ont fini de brassin, ils l'envoient dans une cuve en cuivre sous les toitures, qui est à l'air libre, qui est ventilée. Et c'est tous les champignons, toutes les moisissures qui sont dans la charpente. Et quand on fait une charpente de brasserie là-bas, on n'y touche surtout pas. On reconstruit là une toiture au-dessus de la toiture existante. Et c'est tous ces spores qui tombent dans la nuit et qui ensemencent le brassin et qui vont lui donner tout un tas de maladies, je dirais. Alors c'est un petit peu méchant, mais je dirais que souvent, quand une bière dérive et qu'on a des bactéries qui sont présentes, on va passer sur des phases lactiques ou des choses comme ça, où la bière devient acide, acidulée, acide. Certaines bières lambiques sont vendues, le Faro était vendu à Bruxelles, avec du sucre tendu à côté pour la sucrer, du sirop, des choses comme ça. Donc on a vraiment des particularités. Mais on a un produit, donc c'est une fermentation spontanée. On va redescendre le brassin dans des tonneaux en cave, et on va mettre 2 ans pour faire une bière. Donc on est plus proche de la fabrication d'un vin. Enfin, je ne vais pas comparer, c'est quand même de la céréale. Mais on obtient une fermentation avec tout un tas de passages par différentes maladies de la bière qui fait qu'on va l'immuniser. Et c'est ce qui permet de faire des criques ou des choses comme ça, parce qu'on peut rajouter des fruits comme la maladie se sont développés, puis ont disparu, on a d'autres qui sont venus. Quand vous rajoutez des fruits frais à l'intérieur, la bière est apte à le supporter. Moi, si je veux faire une bière, j'en ai fait une à Noël l'année dernière avec des cerises à l'intérieur. Il a fallu que je fasse un sirop avec des cerises que j'avais récupérées du jardin, que je les fasse cuire, que je les sucre, que je les rajoute au moment de l'embouteillage. Et rajouter les fruits frais comme font ces bières de fermentation spontanée, donc les gueuses, les lambics, la crique, c'est fabriqué comme ça. Une gueuse est fabriquée avec des lambics qui ont 1 an et 2 ans. Donc on mélange une bière de 2 ans donc, qui est finie avec une bière d'1 an qui n'est pas finie, qui contient du sucre. Et c'est ce dosage qui fait qu'elle referme en bouteille et qu'elle va donner les choses surprenantes qu'on a. Malheureusement, plus maintenant. J'ai goûté des gueuses pendant mon service en 70 dans les Ardennes. J'ai découvert ça là-haut. C'était merveilleux. Maintenant, c'est devenu... Les gueuses actuelles sont malheureusement un peu fabriquées à la vitesse des miels. Et en 2 mois, on fait de la fermentation haute, on sucre, on aromatise et on roule ma poule. Ça sort. C'est rentabilisé. Il y a encore une brasserie, la brasserie Cantillon à Bruxelles qui travaille comme ça. Mais elle fait 450 hectolitres par an et c'est quelque chose de particulier qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'avoue que je ne suis pas très amateur de ces bières vraiment assidues. Voilà. D'autres questions ? Mes bouteilles, vous pouvez les regarder de près parce que je suis en train d'arriver au bout du stock. Elles viennent d'Allemagne. Alors pourquoi en Allemagne ? Parce qu'en France, je n'avais pas trouvé le style de bouteille que je voulais. Les bouteilles allemandes sont plus foncées, donc ça protège mieux le produit, sont plus épaisses. Quand j'embouteille mes bières, je travaille à 2 degrés. Donc quand on a des bouteilles en été qui sont à 20, 25 ou 30 degrés, que vous envoyez de la bière à 2 degrés, il y a des chocs thermiques qui font qu'elles cassent. Donc j'avais ces bouteilles-là. Il y a une crise dans le verre à l'heure actuelle. Donc on collectionne en ce moment la hausse des céréales, la hausse de l'énergie qui vient sur tout le bazar, la hausse du verre et la pénurie de verre. On a fermé les fours il y a 7-8 ans, on est en manque de verre, et mon verrier vient de me dire « Monsieur Dumas, c'est fini, on ne fabrique plus vos bouteilles ». Donc j'avais peut-être une tournée, j'attends la réponse là pour redémarrer le printemps, et après je vais retomber sur des bouteilles classiques, la longue nec qu'on trouve, la bouteille de l'ESP ou des choses comme ça, qu'on trouve classique, et j'aurais plus cette bouteille-là. Donc malheureusement, Oui, c'est ça. Ouais. Donc j'en ai encore 100 000 à peu près qui vont être fabriqués, là après c'est fini. Et je vais tomber dans la bouteille normale, donc j'avais aimé cette bouteille-là parce qu'elle était plus haute, parce que j'avais un certain charme, bon, j'avais aimé. Maintenant je vais retomber dans le classique, et en France malheureusement on n'a pas de choix. Il y a un type de bouteille et tout le monde a le même. C'est un peu dommage, on peut pas se diversifier. Celle-là, le recyclage, les gens en parlent à l'heure actuelle énormément. Récupérer les bouteilles, on en récupère la plupart du temps que 20%, donc ça ne solutionnera pas le problème. Et la chaîne du verre à l'heure actuelle en France est si bien faite que le produit refondu et recyclé en revenant comme ça est plus sécurisant et plus économique qu'une bière que je vais laver. La dépense en produits chimiques et en énergie pour laver dans une petite brasserie revient plus cher. Donc là, j'avoue que j'ai pas de... Messieurs, dames, bonsoir, bon retour. Et roulez prudemment parce que j'ai dû vous saouler un peu avec la longueur de mon discours. Après, ça va alors. Bon, messieurs, dames, je vous remercie de votre attention et de votre patience.